Bonjour, bonjour, Yves au micro pour une nouvelle émission de 24 notes secondes qui ne saurait déroger à la tradition et qui, par conséquent, vous apprendra ou vous rappellera que 24 notes secondes est une émission consacrée à la musique de film, à cet art si particulier qui consiste à illustrer de manière sonore ou musicale plus ou moins pertinente, mais toujours dans 24 notes secondes pertinentes, les petites images qui bougent même sur vos téléphones portables là, que vous me narguez dans le tramway avec, que c'est pas bon. Ce jour, dans 24 notes secondes, eh bien, nous allons rester dans la grande tradition française, puisque nous allons évoquer la carrière de Gérard Oury. Alors, j'espère que le nom du réalisateur vous dira quelque chose, mais sinon, les titres des films que nous allons égrainer au cours de 24 notes secondes, eh bien, forcément, ils vous diront quelque chose. J'y reviens plus tard. On ne saurait pour autant oublier que Gérard Oury, né Max Gérard Tannenbaum à Paris le 29 avril 1919, avant d'être un réalisateur ô combien à succès, fut avant tout acteur, puisque avant-guerre, il suivit les cours de René Simon, un acteur et surtout un professeur de théâtre fort réputé dans ces années-là, avant d'entrer au conservatoire en 1938. Mais comme beaucoup, il verra sa carrière largement contrariée par l'arrivée de la guerre et vu son nom comme certains autres, après avoir joué, excusez du peu, Britannicus à la Comédie française, eh bien, il rejoindra la Suisse de laquelle il ne reviendra qu'en 1945. Et pendant une quinzaine d'années, eh bien, il mènera une carrière d'acteur à succès, partageant son talent entre le théâtre, avec des pièces parfois relativement sophistiquées. Il sera notamment le créateur d'une pièce de Georges Simenon, eh oui, l'auteur de Maigret, qui s'est essayé aussi au théâtre, La neige était sale, et bien évidemment, Gérard Oury, on peut le voir dans beaucoup, beaucoup de films des années 50 français, parmi lesquels, il faut bien le dire, je serais bien en peine, regardant sa filmographie, de retenir un film vraiment intéressant. Peut-être Les héros sont fatigués, tourné en 1955 par Yves Kiampi, mais ma foi, quand il se décide à passer en 1960 à la réalisation, ce ne sera peut-être pas une si mauvaise idée, comme la suite le prouve. Son premier film s'appelle La main chaude, mais ce n'est pas du tout ce que vous croyez. C'est un policier, une sorte d'étude de mœurs, ainsi que le second, La menace, d'après un roman de Frédéric Dard avec Marie-Josénat, et Robert Hossein dans les rôles principaux. Puis un troisième, Le crime ne paie pas, qui est un film à sketch policier avec une distribution prestigieuse, Michel Morgan, Edwige Feuillère, Daniel Darieux, Pierre Brasseur, etc. Tous les grands acteurs français des années 60. Et en 1965, eh bien, Gérard Oury va tourner le premier d'une série d'immenses succès, le mot succès est même trop faible pour qualifier ses films, un film qui s'appelle Le Cornion, qui réunit dans les rôles principaux Bourvil et Louis de Funès. Louis de Funès qui, après lui aussi avoir bien galéré dans des dizaines de petits rôles, mais alors encore plus minuscules que ceux de Gérard Oury, eh bien, trouva là une forme de consécration. On va écouter un extrait de la bande originale de ce film, Le Cornio. Elle est signée de Georges Delerue, qui ne signait pas que des films de François Truffaut. Et je vous assure qu'après, forcément, elle va marcher beaucoup moins bien.
Thank you.
Voilà, le classicisme à la française signé Georges Delerue avec un peu d'accordéon dedans, un extrait de la bande originale du Cornio, un film de Gérard Oury. C'est mieux, tourné en 1965 avec Bourville et Louis de Funès dans les rôles principaux. Alors ces deux-là, figurez-vous, avaient déjà tourné ensemble en 1954 dans un film de Gilles Grangier, bien oublié, intitulé Poisson d'avril, à l'époque donc que j'évoquais tout à l'heure, où Louis de Funès était loin d'être les premiers rôles. Et quand on les vit à l'écran tous les deux avec leur comique si particulier, chacun avec leur propre comique, mais le duo fonctionnait d'une manière absolument irrésistible entre les deux. Cette histoire un peu abracadabrante de Louis de Funès prêtant entre guillemets à Bourville une Cadillac bourrée de drogue pour qu'il la ramène en France. Et évidemment, Bourville jouant le rôle du Cornio, ne se doutant de rien. Un film, ma foi, fort réjouissant avec un duo qui fonctionnait tout à fait, des seconds rôles bien oubliés depuis. Peut-être que le nom de Venantino Venantini dira quelque chose aux fans des Tontons Flingueurs qui se recrutent même dans les jeunes générations. Mais à part ça, qui se souvient de Grosso et Modo, qui se souvient d'Henri Virelogeux ou de Henri Jeunesse, qui furent pourtant les beaux jours des seconds rôles du cinéma comique français des années 60. En tout cas, pour Gérard Houy, dont j'avais dit qu'il était passé peu d'années auparavant de l'actorat à la réalisation, eh bien ce fut un coup de maître puisque le public ne se trompa pas et fit un triomphe à ce film, ma foi, fort drôle et avec un duo qui fonctionnait absolument admirablement. Alors peut-être que certains ont reconnu ma façon maladroite de singer l'une des répliques les plus fameuses du film où on voit dans une des premières scènes du film la luxueuse voiture de Léopold de Saroyan alias l'irascible Louis de Funès, eh bien démolie lire complètement celle de Bourville alias Antoine Marchal et ce dernier de s'exclamer, alors même que l'évidence devrait lui imposer le contraire, mais forcément elle va marcher beaucoup moins bien maintenant. Après un triomphe pareil, eh bien, qu'est-ce qu'on fait même dans le cinéma français? On récidive et évidemment, eh bien, Gérard Houry s'attela à la tâche et il réalisa dès 1966 avec à nouveau Louis de Funès et Bourville dans les rôles principaux, un film, alors... Si le Cornio avait été un succès, que dire de la Grande Vadrouille, hein, qui reste encore maintenant un des monuments du cinéma français. Alors après, il y a eu des guerres d'entrée entre la Grande Vadrouille et Bienvenue chez les Ch'tis, mais en tout cas, pendant de très très longues années, la Grande Vadrouille fut le film français. Non pas qui rapportait le plus d'argent à cette époque-là, c'était important, mais pas prioritaire, mais en tout cas, le film français qui avait fait le plus d'entrées. Et ma foi, là encore, ce n'est pas si mal venu. On va en dire un petit mot, mais on va écouter évidemment d'abord un extrait de cette bande originale. Elle est signée tout simplement du grand Georges Auric. La Grande Vadrouille, mais dans 24 notes secondes. Ah ben là, si on n'est pas dans la grande tradition musicale de la France éternelle, messieurs, dames, celle du petit vin blanc, des guinguets et du bal du 14 juillet. Alors, je ne sais pas où on est. Ben, on est dans la grande vaudrouille, tout simplement, avec un extrait de la bande originale de ce film signé de Georges Auric, qui a montré ailleurs plus, je dirais, d'originalité, mais en l'espèce, c'était presque une figure imposée. Pour ses retrouvailles à l'écran, un an après le triomphe du Corneau, et bien de Louis de Funès et Bourville, cette fois plongé en pleine Seconde Guerre mondiale et chargé d'escorter des soldats anglais vers la zone libre. Alors, comme toujours et comme maintenant de plus en plus, un film où on voit Louis de Funès et Bourville déguisés en soldats allemands avec, je dirais, un côté un peu flonflon et grotesque, une vision un peu grotesque de la Seconde Guerre mondiale. Ça passe ou ça casse, mais c'est peu de le dire, la grande vadrouille, ça passe, puisque le film réunit 13 millions de spectateurs. Bref, que ce fut un triomphe commercial absolu et que, je ne sais pas si c'est encore le cas, regarde plus vraiment la télé, mais on le vit pendant longtemps. C'est un des rares films qu'on vit pendant longtemps à la télévision, de ceux qu'on se transmet de génération en génération. Et on se souviendra, par exemple, d'une fameuse scène dans les bains-douches, mais là encore, sans mauvaise part, où on voyait Bourville, Louis de Funès et quelques autres se retrouver au son de cette scie musicale qui s'appelle « Petit photo, tout, etc., etc. Bref, un film avec des grands moments. Il faut reconnaître un scénario signé de Gérard Rouri, une adaptation co-signée par Marcel Julien, bien oublié, et Daniel Thompson. Daniel Thompson qui n'est rien d'autre, si on peut dire, que la fille de Gérard Rouri et de Michel Morgan, si je me souviens bien, et qui deviendra plus tard elle-même une cinéaste de comédie que je qualifierais à la serpe, parce que je suis méchant, de comédie à bobo parisien, mais surfinancée. Bref, on a les descendants, ce qu'on peut en tout cas pour le coup, et bien Bourville et Louis de Funès, là encore, marquèrent les esprits. Et je me permets de citer quand même la délicate, la grande Andrea Parisi, qui dans ce film, bien oublié depuis, qui dans ce film jouait Sœur Marie-Odile, un rôle tout à fait fantastique et presque le genre à vous faire aimer Dieu. C'est vous dire jusqu'où cela pouvait aller. Évidemment, après un pareil succès, eh bien, Gérard Rouri continua à enchaîner et on retrouva en 1969 Le Cerveau, un film peut-être un peu plus mineur avec David Niven, dans mon souvenir, et Bourville à nouveau. Et puis en 1971, il voulait réunir à nouveau Louis de Funès et Bourville au cinéma. Mais le destin en décida autrement, puisque Bourville nous quitta le 23 septembre 1970, ce qui obligea Gérard Rouri non pas à annuler son film, mais en tout cas à trouver un autre acteur. Et en l'espèce, ce fut Yves Montand. Alors, pourquoi et comment passe-t-on de Bourville à Yves Montand? Je ne saurais vous le dire, mais c'est Yves Montand que Louis de Funès retrouva pour un film intitulé, vous l'avez sans doute déjà deviné, La Folie des Grandeurs. La Folie des Grandeurs qui est une libre, très libre adaptation du Ruy Blast de Victor Hugo. Si Victor Hugo avait su ça, je pense qu'il serait rentré dans une de ses colères fameuses en voyant le résultat. Mais donc une très libre adaptation du Ruy Blas de Victor Hugo, dans lequel il le fit presque dans tous ses films. Louis de Funès jouait le rôle bien connu du gars tellement français qu'il est veule avec les puissants et impitoyable avec les humbles. C'est un genre, et Yves Montand qui jouait une sorte de, je dirais, de séducteur un peu passé. Là encore, dans notre série Scènes fétiches, personne n'aura oublié une scène de séduction qui voyait Yves Montand résister tant bien que mal à la grande Alice Sapritch. Mais comment pouvait-on résister à la grande Alice Sapritch? Cerise sur le gâteau de ce film qui cumulait quand même les originalités, eh bien la musique en était signée, pardonnez-moi, de Michel Polnareff. Michel Polnareff, Yves Montand, Victor Hugo, le tout dans 24 notes secondes. à mi-chemin des Sept Mercenaires et de Django, c'est-à-dire en terre française, monsieur, un extrait de la bande originale de La Folie des Grandeurs, une musique signée de Michel Polnareff, un film de Gérard Oury, notre héros de ce jour, interprété dans les rôles principaux par Louis de Funès et Yves Montand, mais on aurait garde d'oublier, on l'a déjà cité, Alice Sapritch, mais aussi Paul Prébois, bien oublié, pourtant indispensable, et Venantini, déjà évoqué pour un film qui fut un nouveau triomphe pour Gérard Oury. Vraiment, ce furent, entre Le Corneau et le film que nous allons maintenant évoquer, ce furent les années d'or de Gérard Oury. Après, son succès fut un peu moindre jusqu'à sa mort, mais en tout cas, entre Le Corneau et Les Aventures de Rabbi Jacob, que nous allons évoquer maintenant, eh bien, chacun de ses films fut un succès commercial colossal en France, mais aussi à l'étranger. C'est peut-être un peu moins connu des films comme La Folie des Grandeurs ou Les Aventures du Rabbi Jacob ont eu une belle carrière en Chine, en URSS, aux États-Unis, un peu où vous voulez, y compris dans des pays peut-être plus rétifs à l'humour français qu'on aurait pu le penser. Les Aventures de Rabbi Jacob, donc tourné en 1972, eh bien, ce fut l'occasion d'un nouveau triomphe pour Louis de Funès. Mais alors là, cette fois, en solo, une histoire un peu abracadabrante, c'est le moins qu'on puisse dire, où Louis de Funès était pris pour un rabbin et donc sommé par la communauté de la rue des Rosiers, eh bien, de jouer son rôle de rabbin. Je n'ose pas imaginer. Un film pareil ne passerait même pas le cap de la première esquisse de scénario aujourd'hui. Le moindre producteur qui verrait « Bon, alors tu vois, c'est l'histoire d'un Français un peu réac et à un moment, on le prend pour un rabbin et tout le monde se marre. » Ah ouais, d'accord. Bon, bah, tu peux aller ailleurs, tu ne vas pas trouver de financement ici. Alors qu'en 1972, eh bien, on n'en doutait pas, ce fut certainement le film le plus cher de l'année puisqu'il était signé Gérard Oury et puisqu'on y voyait Louis de Funès dans les rôles principaux. Là encore, personne n'aura oublié une scène dans une usine de chewing-gum où Louis de Funès, il faut le reconnaître, donna beaucoup de sa personne. On n'aura pas oublié aussi la façon dont Louis de Funès danse magistralement en rabbi, tout simplement. On n'aura pas oublié la déesse noire que j'ai sous les yeux avec un bateau sur le dessus. Je vous laisse voir le film pour comprendre de quoi il s'agit. Bref, on n'aura pas oublié que Les Aventures de Rabbi Jacob était un film d'une époque où on pouvait encore rire de tout et avec plein de monde. Alors que maintenant, c'est l'inverse. Il faut vraiment se cacher et alors, il ne faut pas rire de tout parce que ce n'est pas bien. Voilà. Aux côtés de Louis de Funès, il y avait plein d'acteurs qui, eux, riaient aussi beaucoup. Suzy Delair, Marcel Daliot, le grand Marcel Daliot qui fut l'interprète de Jean Renoir avant-guerre, qui connut une grande carrière dans les années 40, puisqu'on le vit, excusez du peu, dans Casablanca de Michael Curtis, et qui jouait donc lui le vrai Rabbi. Et puis, il y avait plein d'autres acteurs comme on les aimait dans les années 70. Et il y avait même Cerise sur le gâteau. Et lui, il est encore là. Une musique signée de Vladimir Kosma dans 24 notes secondes. We'll be right back. je propose que nous déclarions Vladimir Cosma monument national du cinéma français. Un extrait de la bande originale des Aventures du Rabbi Jacob, un film de Gérard Houry tourné en 1972 avec Louis de Funès dans le rôle principal. Et donc Vladimir Cosma, on t'adore à la musique de cette bondissante et si drôle partition. Alors, nous évoquions la carrière de Gérard Houry et on a pu constater qu'elle était très largement liée à celle de Louis de Funès. Et comme toujours, et ça avait été le cas déjà de Bourville, eh bien, Louis de Funès nous quitta, peut-être un peu prématurément, mais il nous quitta surtout sur le tournage d'un film de Gérard Houry, ce qui ne fut pas sans conséquence pour celui-ci. Un film intitulé Le Crocodile, et qui donc ne verra jamais le jour et qui obligea Gérard Houry à se tourner vers d'autres personnalités pour continuer à être dans sa veine éclatante. Il le sera un peu moins, puisqu'il fera, je dirais, équipe avec un cinéaste lui-même, acteur aussi, à mon avis, d'un tempérament un peu différent, puisque Pierre Richard et Gérard Houry tourneront deux films. Le premier en 1978, La Carapate, La Carapate, et le second, deux ans plus tard, en 1980, Le Coup du Parapluie. Deux films qui obtiendront un certain succès, mais un succès qui n'est ni à l'aune des précédents succès de Gérard Houry, ni même à l'aune des précédents succès de Pierre Richard, qu'on a déjà eu l'occasion d'évoquer. En fait, on va se quitter musicalement sur le dernier grand succès véritable de Gérard Houry, mais comme on va se quitter, je m'en voudrais de ne pas évoquer le fait qu'ensuite, eh bien, Gérard Houry tourna avec l'autre comique de l'époque, peut-être même le comique numéro un de l'époque, en l'espèce Coluche, bien évidemment, avec lequel il tournera La Vengeance du Serpent à Plumes. Un film qui n'est pas resté dans les mémoires et qui sera d'une certaine manière, eh bien, le symbole du déclin de Gérard Houry qui continuera à tourner encore quelques films avec de moins en moins de succès. Et son dernier film, tourné en 1999, le remake d'un film de Marcel Pagnon intitulé Le Schpoutz, eh bien, ce dernier film fut, lui, un échec cuisant qui le vit se retirer des écrans, si je puis dire, à tous les sens du terme. Et il s'éteint le 19 juillet 2006 dans sa maison de Saint-Tropez, à l'âge de 87 ans, après une vie bien remplie. Et même si parfois on pourra, jauger avec une certaine condescendance ses excès de gauloiserie ou de franchouillardise, eh bien ma foi, Gérard Houry aura fait rire et fait encore rire des gens. Et ma foi, quel plus beau compliment pourrait-on lui faire. Allez, on va se quitter en écoutant la bande originale de son dernier grand succès, alors avec un autre grand monstre du cinéma français. Le film, il s'appelle L'As des As. Il a été tourné en 1982 et notre bébel national y jouait le rôle principal. Le tout se passait en 1936, quelque part dans l'Allemagne nazie. Et la musique, oh joie, elle était signée aussi de Vladimir Cosma. Pardon Vladimir, voilà, 20 secondes, Vladimir, aujourd'hui, on va bientôt se dire, bye bye!